temps, cher invité. Bonjour, auditeurs et auditrices. Il est 11h sur Radio Campus Tours et comme vous l'avez deviné, c'est la Méridienne, c'est le marimba que vous reconnaissez. C'est le marimba de Manu Dibango et vous avez entendu qu'avec moi, il y a en studio un invité, c'est Florent Collère. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférences habilité à diriger des recherches au département d'études hispaniques et portugaises de l'Université de Tours. Vous faites également partie de l'équipe ICD, Interaction culturelle et discursive. Alors si j'ai le plaisir de vous avoir aujourd'hui en studio, c'est parce que le vendredi 2 juin 2023 de 9h30 à 17h se tiendra au 5e étage de la bibliothèque universitaire des Tanneurs une journée d'études dialoguée avec la nature. Alors voilà, je lis. Ce qu'on voit sur les documents liés à cette journée d'études, affiches et autres prospectus, dialoguer avec la nature, c'est considérer les êtres vivants comme des interlocuteurs, des acteurs et non comme des objets. Ces êtres vivants que la pensée animiste désigne comme les autres gens. Donc cette journée sera en deux parties, donc une matinée dédiée à la nature et aux arts, et l'après-midi, il sera question d'échanger, parler et communiquer avec la nature. Voilà, peut-être qu'on peut tout d'abord préciser de quelle nature il sera question, Florent Collère.
C'est une bonne question, parce qu'il y a autant de définitions de nature qu'il y a de gens. On va dire que... Bon, je ne pense pas que la nature s'oppose à la culture, mais je dirais qu'il s'agit de la communauté de vivants à laquelle nous appartenons. Je pense que c'est la définition la plus simple.
La communauté de vivants, alors peut-être qu'on peut préciser, il y a qui dans cette communauté de vivants ? Parce que peut-être que c'est une évidence quand on est chercheur en sociozoologie, par exemple, mais peut-être que ça ne l'est pas pour tous nos auditeurs.
Les vivants, en fait, il faudrait dire, il y a une théorie qui dit que la planète qu'on appelle Gaïa est en fait un organisme vivant lui-même. Hein. C'est plus une métaphore qu'autre chose, mais on est inséré dans des processus naturels, biologiques, des cycles saisonniers, et on partage cette planète de moins en moins d'ailleurs. On la partage avec aussi bien des micro-organismes qu'avec des plantes et toutes les espèces vivantes.
Donc ça veut dire que dans ce point de vue-là, toute espèce vivante serait de valeur, disons, équivalente à l'humain. C'est-à-dire qu'on oublie l'idée que l'homme est au centre de tout.
Oui, enfin, il ne s'agit pas de l'oublier, il s'agit d'en constater la totale inanité. C'est plutôt ça, je pense. On n'est rien sans... Quelqu'un disait, aucun chimpanzé n'a construit de cathédrale ou n'a écrit les pièces de Shakespeare. Mais en même temps, Shakespeare, il n'a pas produit d'oxygène. Hein. Géranium fait mieux que Shakespeare de ce point de vue-là. Donc, c'est simplement nous remettre à une place qui devrait être la nôtre, c'est-à-dire une place d'équilibre et d'humilité d'ailleurs.
Et alors, si on regarde le programme de cette journée d'études, hein, donc le 2 juin de 9h à 17h, donc comment ces thématiques vont être déclinées là. Vous avez fait appel à des chercheurs et chercheuses de diverses universités. Donc, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors d'abord, c'est en fait depuis plus de 10 ans, j'appartiens à une sorte de cercle de réflexion qui s'est constitué autour de l'historien Éric Baratet, qui est l'historien de l'animal par excellence. Et ce cercle vise à appliquer des concepts et des méthodes de sciences humaines et sociales aux communautés animales et principalement, dans mon cas, les principes de sociologie aux sociétés animales. Donc la première partie de la journée est plutôt consacrée aux arts parce que c'est la démarche initiale par laquelle on est sensible au vivant. C'est la contemplation, c'est l'imitation. Comprendre d'un point de vue perceptif, sensoriel, émotif, ce rapport que l'on a avec la nature, et plus cette nature est belle, sauvage, animée, etc., plus nos émotions sont fortes. Voilà, par rapport à une bretelle d'autoroute, les émotions esthétiques ne sont pas du côté de la bretelle d'autoroute. La deuxième partie, c'est plutôt... centré sur la question, ben, finalement, quelles sont les interactions possibles. Et là, il faut quand même préciser, dialoguer avec la nature, c'est quand même un titre d'accroche. Hein. C'est simplement, comme je l'ai dit dans mes petites phrases d'introduction, là, c'est que la nature doit être considérée comme un interlocuteur. Au sens propre, par exemple, lorsqu'on dialogue avec des baleines à bosse, et puis dans un sens plus subtil, c'est-à-dire lorsque, par exemple, on se rend compte que la vie de son jardin, eh bien, on en fait partie et que aussi bien on tient compte des mésanges que les mésanges tiennent compte de nous et qu'en fin de compte, on est dans une situation de voisinage dans laquelle on partage un espace avec des êtres vivants et un espace familier chargé d'affect. Donc c'est plutôt la deuxième partie de la journée. J'attire notamment l'attention sur la contribution de Clotilde Moreau sur Len Howard parce qu'elle m'a fait découvrir cet auteur, cet ornithologue anglaise qui s'est installée dans un cottage et qui a vécu avec les oiseaux, avec ses oiseaux. Je ne sais pas comment il a fait, hein, mais les mésanges venaient dormir dans son lit, les merles, elle observait les merles, elle appelait tous les oiseaux par un prénom et elle les a observés au fil des années, voilà, en considérant réellement qu'elle formait communauté avec ses oiseaux.
Voilà, donc cette intervention-là, elle est à 16h15 très précisément. Échanger avec les oiseaux à l'échelle d'un cottage. Donc c'est Clotilde Moreau, Université de Rouen. Et donc vous avez mentionné aussi dialoguer avec une baleine à bosse. Donc ça c'est Fabienne Delfour qui interviendra à 14h45 très précisément.
Ouais, mais là il faut que je dise, j'invite tout le monde à... Il faut que je cite tout le monde à ce moment-là.
Ah bah oui, mais je le fais exprès.
D'accord. Bien, comme j'ai dit, la première partie de la journée, elle est autour de la nature et de l'art. Hein. Principalement sur Geneviève Guettem, sur la production d'un poème quasiment arborescent. Cécile Chapon sur le monde parallèle entre la grande exploitation coloniale et les esclaves fugitifs qui, eux, doivent se cantonner à des zones justement sauvages. Au Brésil, c'est là que beaucoup d'entre eux ont vécu avec des Indiens ou ont formé des communautés en binôme. Et puis Myriam White, qui s'intéresse notamment à Sylvain Tesson et sa fameuse Panthère des Neiges. Mais je me souviens, Sylvain Tesson avait écrit un livre qui s'appelait « Dans les forêts de Sibérie » où il a passé je ne sais pas combien de temps près du lac Baïkal dans une cabane isolée. Et sur la fin du livre, on le voit dialoguer avec une mésange tellement sa solitude est prégnante et épouvantable. Et voilà, c'est découvrir qu'en fait, la mésange est un très bon interlocuteur. Donc là, Cécile Chapon, c'est la Jamaïque. Et puis, ensuite... en fait, ce qui se passe, c'est que là, je n'ai pas les interventions dans l'ordre. Laurent Nagle, oui. Laurent Nagle montre toutes les manières qu'ont les humains de communiquer avec les animaux. Hein. Ça peut passer du gorille coco à des choses beaucoup plus subtiles, évidemment. Fabienne Delfour dialogue avec une baleine à bosse. C'est, dans le domaine de la bioacoustique, se font beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui. Et puis Michel Kreutzer, qui est un ornithologue émérite et qui a une approche de la nature beaucoup plus sensitive que l'attitude behavioriste qu'il avait au début de sa carrière, c'est-à-dire qu'il a profondément évolué vers une compréhension beaucoup plus intime des processus psychiques et biologiques, par exemple à l'origine des chants d'oiseaux, qui sont en fait des manifestations affectives.
Alors là, on voit dans ce programme que vous venez de détailler, Florent Collère, qu'il y a une grande richesse aussi sur les domaines d'études des différents chercheurs et chercheuses qui viendront pour faire des présentations. Donc là, comment est-ce qu'on peut en parler de ça, de toutes ces disciplines qui arrivent à se rencontrer, à dialoguer justement autour d'une thématique commune ?
Je voulais dire, en fait, on se connaît tous. Ça fait 15 ans qu'on se réunit quasiment annuellement autour de thématiques du genre croiser les sciences, écrire du côté des animaux. Ce sont des séminaires qui sont organisés à Lyon par Éric Baratet, que j'ai déjà mentionné. Et on finit par avoir des approches convergentes à force d'échanger, de cadrer nos interventions on se cadre beaucoup, on se recadre beaucoup. On s'échange les informations en amont, en aval, parce qu'après, il y a des publics qui suivent. Donc, les publics sont recadrés à nouveau pour qu'elles soient homogènes. Donc, on est peut-être une trentaine à l'arrivée.
Ce que je voulais dire, c'est peut-être pour les personnes extérieures à cet environnement de recherche, c'est peut-être pas évident de voir que des chercheurs qui travaillent par exemple sur la cognition peuvent aussi être sur le même événement que des chercheurs qui sont plutôt sur la littérature. Ça peut sembler très éloigné.
Je crois que ce qui nous unit tous, c'est une connaissance plus intime du monde vivant. Comment parvient-on à franchir des barrières pour appréhender le monde vivant en tant que tel, en tant qu'interlocuteur, encore une fois. C'est ce qui nous réunit. Il y a des généticiens qui essayent de laisser le champ de la pure génétique pour passer à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire les manifestations comportementales dictées par l'environnement et pas uniquement par les gènes, auxquels les gènes s'adaptent du coup. Donc chacun essaie de converger vers quelque chose qui serait commun et qui est, encore une fois, qu'est-ce que ça donne l'histoire de Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand, d'où vient-il, de quel élevage vient-il, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de recréer une espèce de cheval comme le cheval de Przewalski, qui est une espèce disparue, hein, qui descend du tarpan, enfin disparue. Il en reste quelques exemplaires à l'état naturel, et puis on en recrée aujourd'hui, comme on a voulu recréer le Rox. Eh bien, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est vaste comme programme, vous comprenez, mais pour prendre Éric Baratet, qui est le fil conducteur et un peu le chef d'orchestre, eh bien, lui, il s'est intéressé à l'histoire appliquée aux animaux, c'est-à-dire l'histoire d'animaux particuliers comme la girafe Zarafa qui a été invitée, offerte par je ne sais quel négus à la ménagerie du Jardin des Plantes au XVIIIe siècle, je crois. Donc son parcours depuis Marseille jusqu'à Paris à pied. Il s'est intéressé aux malheureuses ânes de Stevenson qui a fait un parcours dans les Cévennes dont il a relaté le récit, et Baratet se met à la place de l'âne en étudiant la déclivité, la quantité de bagages qu'avait Stevenson, la manière dont il a traité son âne. Il a fait des études sur les chevaux de mine qui, par exemple, refusaient d'avancer si on leur mettait un sixième chariot chargé de charbon, parce que pour eux, leur travail s'arrêtait à 5 chariots. Et que les mineurs devaient négocier avec eux le fait qu'ils travaillent davantage. Ce genre d'approche qui nous permet de... En fait, le fond de la chose, c'est peut-être ce que Lévi-Strauss appelait le décentrement. C'est-à-dire sortir de soi, sortir de l'anthropocentrisme et comprendre que l'anthropomorphisme n'est pas si mal en fin de compte. Pour l'instant, n'en parlons pas pour l'instant, mais on y reviendra, je pense. C'est simplement comment arrêter de parler en permanence de nous.
Mais cette façon de penser, de travailler collectivement, est-ce que c'est pas un peu un challenge vis-à-vis des appels à projets? Parce que peut-être certains appels à projets sont très ciblés, telle discipline, telle pensée, une chose. Et du coup, de dire, c'est un collectif de chercheurs dans plein de disciplines différentes. Du coup, est-ce que ça pose problème?
Oui et non. On n'est pas dans du dilettantisme, hein, mais on est dans une réflexion qui est relativement désintéressée, qui est souvent annexe à nos propres enseignements qui est en même temps trop vague et trop multidisciplinaire pour faire l'objet d'un projet de recherche précis. Donc on se satisfait de se donner des thèmes de réflexion en vue de publier, hein, donc c'est essentiellement ça. On a déjà 3-4 volumes publiés aux presses universitaires de la Sorbonne, à chaque fois sur une thématique différente. voilà, je pense que c'est... de toute façon, ça passerait mal. C'est-à-dire, il faut... un projet de recherche, c'est des usines à gaz. Hein. Si on n'a pas un objectif précis, ou si on veut rester dans une grande liberté de réflexion et autres, bon, il vaut mieux choisir la voie du think tank. Mais j'en suis satisfait, en tout cas.
Bien, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission. Alors, on a de la chance que vous nous ayez préparé une playlist. Alors, pour prévenir nos auditeurs, c'est full Jacques Brel. Hein. Donc là, une première pause musicale, c'est Les Marquises. Alors, pourquoi vous avez souhaité nous faire écouter ça ?
Alors d'abord, je n'écoute plus trop Jacques Brel parce que je le trouve effroyablement misogyne. Mais il a
c'est
quelques chansons qui sont... d'une subtilité, d'une beauté. Déjà, il a la voix un peu tellurique. Hein. Il a une voix pas rappeuse, mais qui vibre d'une force intérieure. Et Les Marquises, c'est une émotion esthétique qui met sur le même plan. Je cite le passage, ou alors la pluie est traversière, elle bat de grains en grains quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Ou alors, et puis plus loin des chiens, des chants de repentance, cette manière d'introduire les éléments de la nature, de l'environnement dans une émotion esthétique, la citation à Gauguin, elle est parfaite. Bon, ça introduit bien cette journée d'études d'une certaine manière, au moins la première moitié de la journée d'études.
Est-ce qu'il y a une idée de synesthésie là-dedans aussi ?
Certainement, oui. Surtout que quand j'entendais, pendant des années, j'ai cru que plus loin des chiens, des chants de repentance, que les chants, c'était C-H-A-M-P. Et ça donnait une valeur poétique à ces chants de repentance. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, c'était le bruit des chiens et le bruit des chants, C-H-A-N-T.
Alors, on écoute Les Marquises, Jacques Brel, dans La Méridienne, sur Radio Campus Tours.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance et quelques pas de deux et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Et voilà, c'était Jacques Brel, Les Marquises, sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Alors, Florent Kohler, vous êtes toujours enseignant-chercheur à l'Université de Tours et nous parlons de cette journée d'études dialoguée avec la nature qui se tiendra vendredi 2 juin de 9h30 à 17h30, entrée libre au 5e étage de la bibliothèque des Tanneurs. Et avant cette pause musicale, nous parlions de projets de recherche. Et justement, il me semble que vous souhaitiez nous parler d'un projet dit Castor. Alors, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, vous évoquiez le fait, vous posiez la question de savoir pourquoi on ne déposait pas des programmes de recherche collectifs dans notre petit cercle. Eh bien, justement, on dépose en fait des programmes de recherche, mais on ne peut pas créer des usines avec 10 000 disciplines. Donc là, on s'est focalisé, je me suis focalisé en l'occurrence sur un programme d'écologie de la réconciliation. J'y travaille depuis quelques années en collaboration avec la Société nationale de protection de la nature et Rémi Lullia, son président, autour de la question sur les conflits homme-nature et notamment les espèces dites à problème, les loups, les ours. Bon, aujourd'hui, tout est à peu près un problème pour les humains. Le moindre frelon, c'est à exterminer. Alors, le castor est un animal a priori sympathique, sauf que quand il s'installe dans des villages qui sont parcourus de petits bras d'eau, dans la Loire, ils n'ont pas d'impact, mais s'ils construisent des barrages, ça inonde les jardins, ils abattent un certain nombre d'arbres pour faire leur barrage au début. Et puis, évidemment, se nourrissant d'écorce, ils ont tendance à boulotter les pommiers, les fruitiers. Donc, il y a des conflits, des situations d'insatisfaction qui peuvent aboutir à du braconnage, à des empoisonnements, à la destruction des barrages à la tractopelle. Or, les castors sont protégés assez strictement par la loi. Et lorsque l'Office français de la biodiversité intervient pour régler les conflits, il le fait souvent de manière qui est assez mal perçue par les gens parce que ça consiste en rappel à la loi et ça tend à faire de la politique environnementale une contrainte permanente pesant sur les citoyens. L'écologie de la réconciliation, c'est une approche qui entérine le fait que les humains, l'emprise humaine sur la nature, en termes spatial notamment, l'espace, est telle qu'il faut que les humains se sentent investis de responsabilité à son égard. Responsabilité pas pénale, mais au sens où on se sent responsable d'un enfant, par exemple. Et donc, pour amener les citoyens à se sentir des acteurs de la protection de l'environnement, ce qu'on appelle des citoyens environnementaux, eh bien, il faut changer la perspective qui est le plus souvent complètement anthropocentré, c'est-à-dire la nature, elle est là pour nous servir, il ne faut pas qu'il y ait un brin d'herbe qui dépasse, pour amener progressivement une vision plus éco-centrée, c'est-à-dire d'une part montrer que l'homme a une place au sein de la nature et que l'homme ne peut pas assurer toutes les fonctions qui nous soutiennent, production d'hydrogène, filtration de l'eau, ça les humains ne sont pas capables de le faire en tant qu'individu. Et pour changer cette perspective, pour comprendre qu'on peut laisser des plantes sauvages dans son jardin, qu'on peut supporter qu'il y ait une couleuvre sur un mur, eh bien, c'est la pratique de l'écologie de la réconciliation, donc de s'opposer à une protection stricte des espèces animales ou des espaces qui engendrent souvent de l'animosité ou de l'hostilité pour montrer à l'aide de concepts qui sont assez anthropomorphiques, hein, comme celui de voisinage, de comprendre qu'on est en fait dans une interaction permanente avec un milieu, que les castors s'adaptent à nous, les oiseaux, les insectes s'adaptent à nous, et que donc nous-mêmes sommes capables également d'entrer dans une logique de concession réciproque et de tolérance mutuelle surtout. Le castor se prête très bien à cet exercice parce qu'il est spontanément anthropomorphisé. Vous savez qu'on parle beaucoup, enfin, les animaux au travail, en général, c'est réservé au cheval de labour, au bœuf de trait, aux chevaux de mine, aux chiens de berger, etc. Et il y a très peu d'animaux qui sont, les animaux sauvages, ne sont jamais perçus comme étant des travailleurs, à part les fourmis. On ne dit pas que les lions travaillent, ni que les éléphants travaillent, alors que pour le castor, oui, le castor travaille, c'est un ingénieur, c'est un architecte, un ingénieur hydraulicien, enfin bref. Et donc, c'est basé sur des questionnaires. On demande aux gens qu'est-ce que le castor évoque pour vous, qu'est-ce que la nature évoque pour vous. Et puis, à mesure des réponses, hein, on a quand même 250 questionnaires, on voit bien apparaître ce caractère anthropomorphe du castor, qui est d'ailleurs accentué par les albums du père castor, les castors juniors et ce genre de choses. Donc, il y a un imaginaire qui fait que, progressivement et en insistant de manière un peu subliminale sur les termes anthropomorphes, eh bien, l'assistance, c'est-à-dire comme c'est un programme participatif, on organise régulièrement des réunions de restitution avec des débats avec les habitants, eh bien, par petites touches, on sent un glissement perceptif vers plus de considération pour le vivant et une meilleure idée de notre place dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on a une telle emprise sur le vivant que la moindre des choses, c'est de lui laisser un tout petit peu de place, ne serait-ce que 10% non tondu dans son jardin. Vous voyez, on essaie d'entrer dans cette logique de, eh bien, il n'y a pas que l'État qui doit faire des politiques d'environnement. Moi, je peux le faire aussi à mon échelle. Je peux être plus respectueux du vivant. Et pour cela, il faut se réconcilier, se reconnecter. C'est pour ça que les approches de la nature par l'art sont intéressantes, parce qu'elles montrent cette démarche de l'artiste qui s'imprègne, qui fabrique de l'art brut, qui s'imprègne de paysages. Voilà, je pense que ça a été plutôt réussi. On vient de publier un papier dans Human Ecology qu'on a intitulé Our Neighbor the Beaver, c'est-à-dire notre voisin le castor.
Et d'ailleurs, puisque vous parlez d'artistes qui peuvent s'imprégner d'un paysage, d'un territoire, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, par exemple, d'inventer une résidence d'artiste en lien avec votre cercle de chercheurs ou parce que ça a le vent en poupe aussi, ces projets de partenariat entre chercheurs et artistes.
Il y a vous savez, le Parlement de Loire,
oui.
Le pôle.
Au Polo, oui.
Ouais, le Polo. Je ne suis pas trop là-dedans parce que moi, j'ai fait une thèse en littérature et je me suis éloigné de la littérature parce que j'en avais assez d'être dans l'abstraction la plus totale. En revanche, oui, il y a des projets très intéressants. J'ai visité le parc naturel régional du Morvan et ils ont là une résidence de bioacousticiens, c'est-à-dire que sur la base d'enregistrement des sons du bocage, une sorte d'encyclopédie des sons du bocage, eh bien, qui sont stockés dans une médiathèque, des artistes sont invités à utiliser ces sons pour composer, pour créer des atmosphères et ce genre de choses. Ce genre d'initiative me paraissent excellentes. Je ne pense pas que ça protège la nature en tant que telle, mais certainement, ça permet d'entrer dans une démarche de respect vis-à-vis de ce qui nous entoure.
Je pense qu'il y a une initiative, pas équivalente, mais en tout cas qui s'approche du côté de la baie de Noirlac, parce qu'ils ont, aussi un acousticien qui travaille, qui a fait une bibliothèque sonore, en fait, qui a été faite à Noirlac. Donc là... des choses. Et puis évidemment, on peut renvoyer à l'excellente équipe de la MSH qui a aussi une équipe de techniciens à disposition, et peut-être là il y a des choses à inventer.
Mais à la fin des années 60, il y a eu un disque produit avec des chants de baleines à bosse, et en fait, bon, déjà c'est renversant. J'ai trouvé sur YouTube, mais j'ai plus la référence. Je crois que c'est Whale Songs ou quelque chose comme ça, ou Songs of the Whale. Et ce disque a beaucoup inspiré les jazzmen, en réalité. Et à l'entendre, en fait, c'est complètement époustouflant. Quand on en écoute une heure, les variations sont extraordinaires. Donc, clairement, oui, on peut s'émerveiller de ce que nous offre le vivant. Si on était plus olfactif, je pense qu'on serait encore plus émerveillé par les odeurs de la nature.
Ah, ça, l'odorama, je ne suis pas sûre que ce soit très répandu encore, mais...
Si on était des chiens, oui, peut-être qu'on pourrait se faire des grèves de truffes.
Patience, ça viendra peut-être. Et alors, puisqu'on parlait là de l'anthropocentrisme, voilà, je pense que peut-être vous vouliez dire aussi des choses sur les émotions.
Oui. Bien sûr, j'y travaille, c'est même moi qui vous ai demandé d'en parler. En tant qu'anthropologue, j'ai étudié des communautés humaines, principalement en Amazonie, mais ailleurs aussi, en France aussi. Et sur quoi reposent les sciences humaines et sociales ? Eh bien, principalement sur de la parole, des récits, des questionnaires, etc. Or, la question de base, que ce soit en sociologie ou en anthropologie, depuis Durkheim et Émile Durkheim et Max Weber, c'est qu'est-ce qui fait société ? Qu'est-ce qui fait que des individus tiennent ensemble, se plient à des règles, à des normes, partagent des croyances, partagent une histoire collective ? Qu'est-ce qui fait ce lien-là ? Et quand on y réfléchit, enfin, quand on étudie un peu le sujet, on ne peut pas reposer uniquement sur les paroles pour que les gens définissent leur identité, etc. Ce sont des choses qui sont non-verbales en réalité. L'exemple type, c'est l'amitié. L'amitié, elle est non-verbale. Vous ne dites pas aux gens « tu es mon ami » et l'autre répond « moi aussi, je suis ton ami ». Enfin, disons que ça ne change rien au contenu de l'amitié en soi. On est ami ou on n'est pas ami, c'est une relation. Eh bien, pour dépasser cette approche purement verbale des liens entre les humains, de la description des sociétés, etc., il faut s'intéresser au rôle des émotions dans la société. Il y a un bouquin de Damasio qui s'appelle « L'erreur de Descartes » le livre montre comment les émotions sont à la base du lien social en ceci que nous sommes en permanence en train de nous accorder à des situations sociales particulières et que nous avons des compétences sociales dès lors que nous mesurons d'un point de vue émotionnel ce qui est en jeu dans le contexte humain, social qui nous entoure. Vous participez à une fête, vous n'êtes pas censé fondre en larmes. Vous participez à un enterrement, vous n'êtes pas censé éclater de rire. Il y a beaucoup d'études sur ça, sur le fait que les émotions sont sociales. Il existe des émotions purement sociales. On parle d'émotions primaires pour parler de la joie, de la peur, de la colère. Mais il existe des émotions secondaires, dites sociales. L'exemple type étant la honte. On ne peut avoir honte qu'en présence d'un public et par rapport à une situation donnée. D'autres émotions sociales, c'est l'amour, c'est l'amitié, la tristesse en contexte social, donc notamment le sentiment de deuil. Mais pour aller plus loin, il y a eu beaucoup de bouquins qui ont été écrits sur les émotions animales, notamment par des éthologues fameux comme Marc Bekoff ou Franz De Waal, c'est très connu pour ses études sur les chimpanzés. Mais j'essaie d'aller plus loin. Parce que d'un point de vue sociologique, ce qui est intéressant, c'est l'expression des émotions. Parce qu'une émotion, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on éprouve. On peut déterminer quelles sont les hormones en jeu dans la production de telle et telle émotion. Et ça, elles sont assez universelles. L'ocytocine, la sérotonine, l'adrénaline. Eh bien, en même temps, ces expressions, elles sont encodées. Elles sont marquées par vos expressions faciales, par des expressions corporelles. Beaucoup d'animaux ont des expressions faciales extrêmement développées, pas que les primates, les chiens, les chevaux. Paradoxalement, le dauphin qu'on voit toujours sourire, lui, n'a pas de muscles faciaux. En fait, ce sont des muscles qui sont... L'expression faciale, il y a plein de muscles qui entrent en jeu. Certaines espèces en sont dépourvues parce que leurs émotions sont codifiées par d'autres, des expressions corporelles, des sons... et autres. Donc, d'un point de vue sociologique, ce qui est intéressant, d'après un très fameux sociologue qui s'appelle Goffman, Erwin Goffman, qui a écrit des livres tels que « Les rites d'interaction » ou « La mise en scène de la vie quotidienne », c'est d'étudier toutes ces situations du quotidien, au travail, par rapport à un subordonné ou un supérieur hiérarchique. Quelle est notre attitude? Comment est mise en scène ce rapport avec quand vous allez acheter du pain? Vous n'y allez pas comme un robot et la boulangère ne vous parle pas comme un robot. Il y a plein de petits rituels qui sont en place dans la vie quotidienne et qui, en fait, sont totalement cadrés et normés. Vous n'allez pas chez la boulangère en disant « Bon, alors, vous me le passez, cette baguette, oui ou non ?» Et elle ne vous répond pas, elle ne vous la lance pas la figure, déjà. En revanche, vous dites « Bonjour, madame, je voudrais deux baguettes, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, voudrez-vous autre chose ?» Et tout ça, ce sont des rituels chantés, si vous y faites attention. C'est-à-dire que elle le répète 1000 fois par jour à 1000 clients et moi, je le répète 1000 fois par jour à 1000 commerçants. Et c'est là-dessus que se joue l'interaction qui n'est pas purement monétaire. Voilà l'argent, donnez-moi la baguette. C'est un exemple que j'ai un peu développé, mais cette approche par l'expression de l'émotion est d'autant plus intéressante que l'émotion peut être feinte. Dans un contexte social, comme je vous l'ai dit, dans un enterrement, vous prenez un air contrit, quel que soit le rapport que vous avez avec la personne décédée. Vous êtes là plutôt, non pas pour le défunt lui-même, que pour vos liens avec sa famille, son entourage, ou parce que vous étiez dans le milieu professionnel, ce genre de choses. Et donc, c'est ça qui fait le social, en réalité. Et l'amour est tout à fait exemplaire de cette communication non verbale. On y met des mots dans l'amour. Il y a 1000 chansons d'amour et vous êtes d'accord que ça n'épuise pas l'amour qu'on peut éprouver. Et je ne sais pas si vous voulez que je vous donne une anecdote ou si vous préférez.
Mais oui, n'hésitez pas.
Bon. C'est une anecdote que je dit très souvent parce que ça a été une révélation. J'avais une 20aine d'années, j'habitais à Paris dans un appartement sur cour et comme c'était l'été, toutes les fenêtres étaient ouvertes et le voisin du dessous qui était américain, états-unien si vous voulez, recevait une jeune française à dîner. Donc c'était manifestement la première fois qu'ils dînaient ensemble et j'entendais tout. Et la conversation...
Vous entendiez ou vous écoutiez
Je crois que j'écoutais parce que c'était intéressant. On voyait bien que quelque chose allait se jouer là. Sauf que la conversation portait sur la démocratie en Amérique. Donc Tocqueville, quelle est la différence entre la démocratie française et américaine, quels sont les mécanismes. Bref, a priori, une conversation sérieuse. Sauf que le malheureux américain ne parlait pas très bien le français, donc il avait plus de mal à énoncer ses idées. Et la jeune fille jouait avec lui, se moquait de lui. Et à un moment, il s'est énervé en disant « Bon, puisque tu connais si bien la démocratie en Amérique, tu n'as qu'à me dire ce que c'est. » Et elle a répondu « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu es le plus beau, le plus intelligent ?» Et sa voix s'est radoucie, elle a dit « Je peux le dire si tu veux. » Et là, j'ai compris que la démocratie en Amérique n'avait strictement rien à voir avec la relation d'amour qui était en train de se nouer. Et c'est la même chose en amitié, c'est le discours amoureux, c'est quoi? C'est simplement une sorte, l'équivalent d'une expression corporelle, de roucouler ou faire autre chose. Alors peut-être qu'il est très élaboré chez nous, mais enfin bon, comme on ne connaît pas tout le reste des vivants, on n'en sait rien. Mais c'est simplement pour vous dire que la parole n'est rien par rapport à des choses qui sont cruciales dans nos vies, et que la parole n'est qu'un moyen de l'exprimer comme des autres. Et la danse, on y reviendra parce que j'ai choisi une chanson de Brel après, est l'exemple type de communication sans parole qui vise à mettre les corps en harmonie. Et à partir de là, en général, si on a bien dansé, on est heureux d'avoir dansé, en général, ça peut déboucher sur quelque chose.
Voilà. On peut conclure, comme dirait Jean-Claude Duss, mais est-ce qu'on est anthropologue 24 heures sur 24? Parce que là, vous vous donnez un exemple d'une conversation que vous avez entendue ou écoutée. Mais est-ce que ça veut dire que quand on est anthropologue, on est constamment dans ce flux d'intérêt, de pensée pour le monde qui entoure? Ou est-ce qu'on arrive à mettre son observation sur pause?
Alors, je me souviens que quand j'étais en troisième, j'avais écrit un long texte théorique sur les rapports de domination au sein du groupe. Donc, j'observais pas, c'est juste en récapitulant des scènes. C'est déjà accorder de l'importance aux scènes. En anthropologie, on travaille beaucoup la mémoire, aussi bien pour les discours que pour les observations, parce qu'on est obligé de restituer après le soir dans sa chambrette, on écrit dans son carnet, ou dans son hamac en l'occurrence, plus souvent. On écrit ce qu'on a vu dans la journée, ce qu'on a entendu, et il faut être capable de le reconstituer de mémoire. Et puis, C'est une curiosité. Mon père n'était pas anthropologue, mais quand il prenait un taxi, il avait des conversations d'une heure avec le chauffeur pour savoir comment il vivait, ce qu'il pensait de telle ou telle chose. Bah, je sais pas, c'est être curieux. Et je suis aussi curieux de voir des mésanges qui jouent, un petit chouka qui change complètement d'attitude envers nous parce qu'on l'a sauvé, ou ce genre de choses. Ben, voilà, ça, je suis curieux. Voilà, c'est le principe de la recherche scientifique, il me semble.
Voilà, donc curiosité, c'est bien pour les chercheurs ou journalistes, et avis aux hypermnésiques, peut-être, là. Peut-être qu'anthropologue, c'est pour eux. Écoutons donc Jacques Brel, la valse à mille temps. On est toujours dans la Méridienne sur Radio Campus Tour.
Chante la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, oh, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit ton printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans, pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frossol aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, oh, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit ton printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans, pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, on passe sur nos amants, 303 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. En troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des tours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit ton printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de passer des vingt ans pour que tu aies vingt ans, pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, François nous amassons sur notre poil temps de bâtir un roman. La 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 la.
Et voilà, c'était Jacques Brel sur Radio Campus Tour, la valse à mille temps. Alors je me tourne vers notre invité, puisque c'est vous, Florent Koller, qui avez choisi cette pause musicale. Alors qu'est-ce que vous aimeriez en dire de cette valse à mille temps ?
j'ai beaucoup pratiqué le tango, hein. J'en ai fait plus de 10 ans. Et l'intérêt de cette valse à mille temps, c'est qu'elle explicite ce que j'expliquais à propos du discours amoureux. C'est-à-dire que la chanson a des paroles, mais que ce qui est décrit, c'est une approche progressive avec « je suis seul, te vois déjà, mais je t'aperçois ». Ensuite, on est deux, tu es dans mes bras. Et puis après, il y a toi, il y a l'amour et il y a moi. Et tout ça, c'est un rapprochement par la danse dans lequel aucune parole n'est échangée. Et l'amour, c'est quoi? C'est du lien social qui n'a pas besoin de paroles pour s'exprimer.
Voilà, bon, alors nous n'allons pas enchaîner sur les fragments d'un discours amoureux, mais on va plutôt revenir sur la Loire, le Parlement de Loire, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc au passage, on peut rappeler à nos auditeurs qu'il y a un livre voilà, qui est proposé par Camille de Toledo qui s'appelle « Le fleuve qui voulait écrire », donc qui rassemble les auditions du Parlement de Loire. Je crois que vous vouliez revenir sur ce Parlement de Loire.
Oui, pour revenir au début de notre émission, hein, sur cette idée de dialoguer avec la nature comme interlocuteur, et... Le Parlement de Loire a cette démarche intéressante, indépendamment de son association avec des artistes, une mise en scène esthétique de la Loire et autres, par le fait qu'il y a aussi une volonté de faire de la Loire ou d'accorder à la Loire la personnalité juridique. Dans le droit français, c'est à peu près impossible. Hein, notre droit est un droit dérivé de l'humanisme, de la Révolution française. Mais beaucoup de pays... Je citerai le Pakistan, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Équateur ou autres, ont décidé d'accorder à certaines entités naturelles une personnalité juridique, c'est-à-dire les reconnaître comme étant des personnes morales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en tant que personne morale, ayant la personnalité juridique, eh bien, elles ont le droit d'être représentées par un avocat. Et c'est essentiel parce que nous, depuis des générations, on a inventé la personnalité juridique pour des entreprises, pour des entités d'éducation. C'est-à-dire que quand je signe un contrat, je le signe avec l'université de Tours et pas avec tel et tel individu. Donc nous, on peut parfaitement admettre que des entités naturelles, comme un fleuve ou autre, puissent également être représentées puisqu'il a des intérêts. L'intérêt principal étant de ne pas mourir. C'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande. L'approche de la Nouvelle-Zélande est intéressante parce que de très nombreux pays ont reconnu à des populations indigènes le droit de vivre selon leurs us et coutumes dans des espaces qui leur sont attribués. Ça, c'est la pratique des territoires amérindiens au Brésil, des réserves indiennes aux États-Unis. Et bon, un peu partout où il y a des populations indigènes, on détermine des territoires permettant à ces indigènes, s'ils le souhaitent, de vivre selon leurs propres traditions, rituels, pratiques, etc. La Nouvelle-Zélande a adopté la posture inverse, mais ça partait d'une revendication de populations traditionnelles maoris, c'est-à-dire de donner une personnalité juridique à l'espace considéré. Donc il y a le fleuve Whanganui, il y a aussi un ancien, pardon pour mon accent maori, hein, il y a aussi un ancien parc national qui s'appelait Te Uruhara, si je ne m'abuse, dans lequel résidaient, ou le long duquel résidaient des communautés maoris. La Nouvelle-Zélande, en fait, a accordé la personnalité juridique au fleuve et au parc national. Et les représentants légaux de ces entités sont les peuples indigènes qui y vivent, qui en ont l'usage et l'usufruit. C'est une démarche très intéressante et en fait, elle va de soi. Pourquoi ne pas donner aux Pyrénées ou à la Loire, en effet, une personnalité juridique? C'est-à-dire tout simplement le droit d'être représenté à un procès lorsque ses intérêts sont concernés. Après, il faut déterminer quels sont les intérêts de la Loire. Mais ça, c'est pas très difficile de comprendre que la Loire a des intérêts, notamment celui de pouvoir vivre sa vie de fleuve avec toute la faune et toute la flore qu'elle comporte.
Et d'ailleurs, qui serait habilité à représenter la Loire?
Eh bien, une structure comme le Polo, par exemple. Ou alors une association environnementale ou des cabinets d'avocats spécialisés. ou qui serait saisi par une association et qui dès lors défendrait les intérêts du fleuve ou d'une espèce, par exemple les intérêts des blaireaux, qui sont déterrés et massacrés au nid de manière abominable. Et ce sont des associations qui portent plainte. Le Conseil d'État casse les arrêtés préfectoraux qui autorisent la vénerie sous terre. Malheureusement, le Conseil d'État les casse quand 800 blaireaux ont déjà été massacrés à coups de pelle. Mais...
Eh bien voilà, c'est une note pas très gaie pour se diriger vers la fin de cette émission. Est-ce que quand même, par hasard, vous auriez des recommandations de lecture, de choses à écouter, à voir pour nos auditeurs ? Avant que de se rendre le 2 juin, rappelons-le, à cette journée d'études, dialoguer avec la nature, 5e étage de la bibliothèque des Tanneurs, donc une journée d'études entrée libre. Et on retrouve tout le programme en ligne sur le site de la MSH. Mais d'ici là, peut-être que vous avez des choses à recommander à nos auditeurs. Donc déjà, ce vinyle sur les champs de baleines, pourquoi pas ?
Oui, ça, bien sûr, je regrette de ne pas me rappeler le titre exact. Je dirais, pour une approche intéressante de ce qu'on pourrait appeler une histoire naturelle de l'humanité, donc c'est-à-dire une histoire qui ne soit pas purement politique, économique ou culturelle, une histoire naturelle, je recommanderais la lecture de Jared Diamond, Collapse, mais qui en français a été traduit par Effondrement, comment les sociétés décident ou non de leur propre survie, et qui montre comment une société humaine ne peut pas survivre à la destruction de son environnement. Exemple, le croissant fertile en Mésopotamie, qui à force d'irrigation, c'était le grenier à blé de l'univers, hein, qui à force d'irrigation a fait remonter le sel qui était situé en profondeur. Et qu'est-ce qu'on a ? Ben maintenant, on a des déserts à perte de vue, alors qu'on l'appelait bien le croissant fertile. Donc cette approche-là, par le fait qu'une société humaine n'est pas suspendue en l'air, mais elle est ancrée dans un environnement qui la sustente, directement ou indirectement, eh bien, est une manière intéressante de considérer l'histoire humaine et de nous remettre un peu à notre juste place.
Eh bien, merci à vous, Florent Kohler. Vous êtes
le mot de la fin. Lévi-Strauss, Le regard éloigné. C'est là qu'on voit cette problématique du décentrement. C'est là que Lévi-Strauss a émis ses plus belles phrases écologiques. Sur la fin de sa vie, il était devenu vraiment écologue. Et il disait, par exemple, les droits de l'homme s'arrêtent là où commence celui des autres espèces à exister.
Voilà, donc on suppose que ces ouvrages sont à retrouver dans toutes les bonnes bibliothèques universitaires et peut-être aussi dans le réseau des bibliothèques de la ville de Tours, espérons-le. Merci à vous, Florent Kohler, enseignant-chercheur à l'université de Tours, d'être venu dans cette émission pour parler de la journée d'études du 2 juin. Voilà, 5e étage de la bibliothèque universitaire des Tanneurs, on le dit et on le répète, journée d'études, dialoguer avec la nature. Et merci aussi d'être venu présenter vos travaux de recherche. Donc on va se quitter en écoutant une dernière chanson de Jacques Brel. Et là, je ne résiste pas, j'en mets une en flamand. Et je vois que vous souhaitez quand même dire un dernier mot. Alors vous avez une minute.
D'abord, merci beaucoup pour votre invitation, pour vos questions. J'avais proposé, mon père disait, mais je crois que vous avez choisi autre chose.
Et non, j'ai choisi une autre en flamand.
D'accord, parce que mon père disait, c'est le vent du Nord qui fait craquer les digues. C'est une chanson qui met en scène le vent du Nord comme acteur principal. Bon, mais je vous laisse choisir.
On la mettra en podcast, comme ça nos auditeurs pourront l'écouter en complément de cette émission. Voilà, merci encore à vous et bonne journée à tous et à toutes. Émission à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et aujourd'hui même à 17h. Dans golden ways of poop and zonger way vol vuur pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaar en uur. Met de burgerkliek, met de wiese werkens. Burgerij, dan de zwijnen spul. Al die burger is zijn ouwe. Dronken, dol en dwaas, beet ik in mijn bier bij de dikke Sjaan uit de mond verland. Ik dronk een vat met Klaas, ik dronk een vust met pier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik
de super arrogante. Ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaren nullen, wette burgerkliek, wette vieze varkens. Burgerij, dan een zwijnen spul, al wie burger is, snouwen. Elk instinct, de baas, zoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Goudverzand. Met meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante of Pier haalt Casanova aan. En ik bleef de super arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Sjaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van oud bier. Dat zingt dan van burgerijen, een man van het jaar nul, de vette burgerkliek, vette vieze werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, en wie burger is, is een oude vierlouwe.
Thank you.